Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, Monsieur, bonjour. Voici Samedi en France, épisode numéro 6, dans lequel, comme d'habitude, nous vous présentons des lieux à découvrir. Je dis bien à découvrir, car pour toutes sortes de mauvaises raisons, que je ne connais pas toutes évidemment, ces lieux ont été oubliés ou ne figurent pas dans les circuits touristiques traditionnels. Ces lieux sont tous originaux, bien sûr, voire même insolites, et ils méritent votre attention. Ils sont répartis sur l'ensemble du pays, hein, parce que si on n'est pas encore passé chez vous, on va venir. Alors ça vous permet de visiter toutes les régions. Alors aujourd'hui, avec Gavin Clemente-Ruiz, alias le dénicheur, ambassadeur du guide du routard, s'il vous plaît, nous vous emmenons dans un lieu a priori improbable. C'est une ancienne base militaire sous-marine. Bonjour Gavin.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous sommes où? Pour commencer, situer le lieu.
On va aller à Bordeaux, dans l'ancienne base sous-marine, vous l'avez dit, construite pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands pour abriter à l'origine les sous-marins de l'occupant. Bordeaux était alors une base stratégique hein, pour les Allemands. C'est là que 15 U-boats, ces immenses sous-marins, pouvaient s'y amarrer. C'est vous dire à peu près la superficie des lieux, c'était énorme. Et ces bâtiments sur mer écumaient l'Atlantique, ils étaient absolument redoutables.
Ah oui, redoutables. Je vous signale qu'il y avait toujours un film magnifique qui s'appelle Das Boot, qui retrace l'aventure d'un U-boat allemand. Alors c'est précisément dans cette base sous-marine du quartier de Bacalan qu'on peut voir aujourd'hui. Alors on me dit que c'est le plus grand centre d'art numérique au monde.
Vous êtes bien enseigné, William, c'est exactement ça. Et ça s'appelle le bassin des Lumières.
Ça ressemble à quoi?
Alors en réalité, c'est 4 bassins, ça fait plus de 100 mètres de long, 12 mètres de haut. Et ils ont tous été réhabilités, c'est assez spectaculaire. Et la surface totale, c'est 13 000 mètres carrés.
Ah oui, ça va.
Et on y a installé 90 projecteurs, vidéoprojecteurs.
Ah, voilà, ça c'est l'essentiel. C'est pour ça qu'on l'appelle le bassin des lumières.
Exactement. Vous êtes complètement immergé dans ces bassins, dans des expositions numériques monumentales. Et les œuvres sont projetées sur les murs des bassins. C'est des expositions temporaires, ça bouge tout le temps. Il y en a plusieurs en même temps. On marche, c'est spectaculaire. On est dans le rouge, on est dans le bleu, dans un tableau de Chagall, on est dans le doré des tableaux de Gustav Klimt. C'est vraiment une expérience visuelle et artistique à vivre. C'est vraiment spectaculaire.
Alors là, j'ai les photos sous les yeux. C'est vrai que c'est spectaculaire. Bon, nous avons en ligne Humbert Vuatrin, qui est directeur des Bassins des Lumières. Bonjour, monsieur Vuatrin.
Bonjour.
Alors, pour bien profiter du lieu, je suppose qu'il faut y rester quand même plusieurs heures, non?
Alors, effectivement, le temps moyen de visite est d'environ 1h15, 1h30. Mais certains poursuivent l'expérience bien au-delà et vous pouvez en profiter et rester le temps que vous souhaitez, bien évidemment. C'est vrai que la base offre, grâce à cette architecture bien particulière, des centaines de points de vue différents au gré de l'avancée du parcours. Et vous avez les œuvres qui sont dédoublées, qui se reflètent dans l'eau. Donc ça a créé des mouvements supplémentaires et vous pouvez profiter de toutes ces petites subtilités en déambulant justement le long de ces alvéoles.
Voilà, c'est ça.
Dans la base.
Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne faut pas rester au même endroit. Là, vous avez un point de vue, mais si vous allez 20 mètres plus loin, en vous retournant, vous en avez un autre et ainsi de suite, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'on se promène, qu'on marche dans les œuvres, qu'on est dans l'œuvre?
Ah, complètement, c'est une véritable immersion. Vous êtes au sein des œuvres et vous pouvez même voir la granularité des traits, du grain. Voilà, vous êtes vraiment au plus proche des œuvres et c'est ce qui fait la richesse de l'immersion.
Et puis alors les œuvres en question, ben, elles sont monumentales. Du coup, il faut bien comprendre ça. Quand on est dans un musée traditionnel, l'œuvre, elle fait, je vois, 2,50 m sur 1,20 m. Bon, très bien. Mais là, c'est gigantesque, quoi. Et en plus, on marche dedans.
Complètement. les œuvres sont partout sur les murs, tout autour de vous et en plus se reflète dans l'eau. Donc effectivement, il y a 14 500 mètres carrés de surface de projection, ce qui est assez monumental.
C'est fou ça, oui. Et quelles sont les expositions numériques que vous présentez là en ce moment?
Alors en ce moment, vous avez donc un programme long autour de Monet, Renoir, Chagall, Voyage en Méditerranée, qui propose un vrai parcours qui part de l'impressionnisme jusqu'à la modernité et qui révèle ce lien très étroit entre la création artistique et la Méditerranée grâce à l'essor du chemin de fer et cette fameuse ligne Paris-Lyon-Méditerranée à partir des années 1880.
Et oui, le fameux PLM.
PLM, exactement. PLM. Et ensuite, vous avez un petit programme plus court, Yves Klein, l'Infini Bleu. Et là, c'est Yves Klein qui lui aussi admirait la Méditerranée et va chercher à magnifier la couleur dans sa forme la plus pure, notamment avec ses monochromes bien connus et le fameux IKB avec ce bleu outre-mer caractéristique. Et avec une sélection de 90 œuvres et 60 images d'archives, vous plongez vraiment dans l'univers de Yves Klein.
Alors ça, c'est pour l'image. Parce que je dis ça à nos auditeurs, c'est que si vous allez là-bas, ça ne se passe pas dans un silence absolu où on entend les chewing-gums et les gens tousser. Pas du tout. Parce qu'il y a du son, il y a de la musique. Quoi. Il faut créer des liens entre le tableau et le son en question.
Exactement, tout à fait. Donc, ces expositions numériques immersives ont finalement une approche assez novatrice, car elles permettent de plonger vraiment les visiteurs au cœur des œuvres et dans une véritable aventure sensorielle, musicale, esthétique. Et effectivement, on a une combinaison assez subtile d'images et de sons qui va provoquer justement ces émotions assez fortes où chacun va se sentir touché en fonction de son histoire.
Ce qui est amusant, c'est qu'il faut vraiment aller là-bas parce qu'on se dit mais pourquoi il y a cette musique-là qui va avec Klimt et puis celle-là, ça va mieux avec Chagall. Ça, c'est assez marrant, je trouve, d'arriver à composer ça. C'est votre travail, d'ailleurs. Mais ça, c'est assez subtil, c'est plutôt bien fait. On le découvre, évidemment. Est-ce qu'il y a des artistes contemporains, vraiment, aussi ?
Alors, effectivement, on a un petit espace qui s'appelle Le Cube et qui est dédié vraiment à la création contemporaine, où on fait appel à des jeunes talents du numérique, des studios de création ou des collectifs, et qui vont produire vraiment des œuvres originales et sur mesure autour du motion design, avec un sound design bien particulier qui est sur mesure pour cet espace.
Parfait. Merci Humbert Vuatrin. Je rappelle que vous êtes le directeur des Bassins des Lumières. Bravo pour cette réalisation-là et pour ces explications complémentaires. À bientôt. Merci.
À bientôt, merci. Au revoir.
Au revoir. Gavin, est-ce qu'on peut y aller tous les jours là pour visiter ?
Exactement, du dimanche au jeudi, c'est de 10h à 18h. Les vendredis et samedis nocturnes de 18h à 20h pour les expositions immersives. Gustave Klimt.
Immersive, ça veut dire que vous êtes dedans. Quoi.
Vous êtes complètement dans un bassin, en plus, ça porte bien son nom. C'est 13,50€ pour les adultes et 9€ pour les plus jeunes.
Mais alors attention, là, je vais vous poser une question un petit peu difficile. Nous sommes dans une grande ville. Si je vous dis qu'il faut une adresse pour passer un week-end, et Dieu sait s'il y a le choix à Bordeaux, mais bon, allez, vous avez droit à une.
J'ai eu un coup de cœur pour Casablanca.
En deux mots.
En Casablanca, en deux mots, ouais. Ça va vous faire plaisir aussi, vous, le cinéphile, William. C'est une maison d'hôte, pleine de charme, dans une maison du 19e siècle, toute rénovée. C'est vraiment très beau. Il y a du mobilier chiné, il y a du cuir, il y a du bois, il y a de la lumière. 120€. À partir de 120€ la nuit, c'est vraiment une très belle adresse. J'aime bien surtout la chambre avec le toit terrasse là-haut. C'est vraiment génial.
Et oui, Humphrey Bogart.
Casablanca, Bordeaux.
Ingrid Bergman.
C'est pas mal.
Casablanca. Play Again Sam.
Sam.
Play It Again Sam.
Sam, c'est ça.
Quand elle dit ça. Bon.
Revenons au plancher des vaches, mon cher William.
Bon, pour manger, pas cher. Attention, un.
Un exemple. Pas deux. Hein.
Un.
Le bar de la Marine, c'est rue Achard, à Bordeaux. Menu à 19€ déjeuner en semaine, avec une petite salle rétro, un jardin, des grillades au brasero. Il y a un petit côté guinguette super sympa qui m'a bien plu.
Donc c'est à Bordeaux. Alors évidemment, à Bordeaux, il y a d'autres sites à découvrir dans cette ville, bien sûr. Et si vous voulez, vous pouvez pousser la visite jusqu'au-delà, jusqu'à Libourne. Magnifique ville.
Vous ne seriez pas de Libourne?
Non, oui, un peu. Mais le bassin des Limères... franchement, si vous allez à Bordeaux, ne le loupez pas, quoi. Vous avez le détail sur les réseaux sociaux et sur europe1.fr encore plus. Dans un instant, direction Arles. Alors, c'est une ville, elle aussi, très riche sur le plan culturel. Mais, il y a là-bas un lieu dont, à mon avis, et à l'avis de Gavins également, on ne parle pas assez.
Carrément.
C'est le musée des Beaux-Arts, où les œuvres de grands artistes dialoguent entre elles, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous verrez ça dans un instant.
Samedi en France. William Lémergie. Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Dans Samedi en France, avec Gavins Clemente Ruiz du Guide du Routard, on traverse tout le pays à la recherche de sites qui méritent votre curiosité, et vous en avez, et dont on estime qu'ils ne sont pas assez connus. Alors, démonstration tout de suite, vous allez voir, avec la ville d'Arles et une sorte de paradoxe, Gavins.
Oui, parce que nous allons vous emmener en Arles, comme on dit, non pas pour vous parler de la fondation Van Gogh, ni pour décrire la nouvelle fondation Luma pour la création contemporaine signée de l'architecte Stargheri. Non, pas du tout.
Alors, il faut expliquer ce paradoxe. Ce dont vous venez de parler, c'est remarquable, mais en ce moment, on en parle beaucoup.
Exactement. Ce sont deux sites qui sont maintenant très connus, et c'est tant mieux. Mais du coup, on a un peu oublié un autre musée qui est tout aussi beau. c'est le musée Réattu. Aujourd'hui, musée des beaux-arts de la ville d'Arles.
Oui, non, mais ce musée, il existe depuis longtemps.
Oui, 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 il existe depuis très longtemps. Jacques Réattu, c'est un artiste peint du XVIIIe siècle, né à Arles. Et avant cela, c'était un prieuré des chevaliers de l'ordre de Malte qui a été récupéré par Réattu après la Révolution.
Oui, mais alors comment on passe d'une maison particulière à un musée ?
Alors, en fait, au début, c'était son atelier. C'était Réattu, c'était un artiste assez académique, avec des sujets de peinture souvent liés à la mythologie. Il a aussi réalisé pas mal de portraits. Alors, c'est très beau, c'est très léché, c'est assez touchant. Et à sa disparition, sa fille, elle a transformé la maison en musée qui, au fur et à mesure, au fil des années, est devenu, j'ai envie de dire, un espace de dialogue entre les œuvres d'artistes très différents qu'elle avait à l'intérieur de sa collection. Oui, des sculpteurs, des photographes, des peintres, et tout ça s'est agrégé au fil du temps. Il y a même Picasso qui a fait un don très conséquent de ses peintures.
C'est pourquoi, bon, elle fait un musée à la gloire de son papa, ouais. C'est tout à fait respectable, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant d'artistes qui ont prêté leurs œuvres, ou comment elle a fait pour récupérer tout ça? Parce qu'il y a des photographes aussi, il y a des sculpteurs, c'est très varié.
C'est très varié, c'est grâce au talent des conservateurs du musée Réattu qui ont compris que le musée, avec les collections de M. Réattu, qui étaient assez classiques, pouvait dialoguer avec des œuvres d'art, des photos, comme vous l'avez dit, des sculptures, etc., beaucoup plus modernes. Et ils se sont amusés à faire un lien entre la création classique de Réattu et l'art, on va dire, contemporain, et comment faire dialoguer tout ça.
L'art moderne d'abord, puis après l'art contemporain.
Exactement. Oui. Et il y a même le couturier Christian Lacroix, l'enfant du pays d'Arles, hein, quand même, qui a fait don de pas mal de dessins.
Et oui, il n'y a pas que Picasso.
Non.
Mais Picasso, le don qu'il a fait, c'est impressionnant.
Je crois que c'est 57 œuvres, très précisément.
C'est énorme, ça. On a en ligne Daniel Rouvier, qui est directeur et conservateur de ce musée Réattu. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour.
Je parlais d'artistes célèbres, là. On en a cité quelques-uns. Il y en a d'autres dont les œuvres figurent dans votre musée?
Ah ben, on a un grand artiste qui s'appelle Pierre Alechinski, dont on conserve plus d'une vingtaine d'œuvres. Sachant que sur ces 20 œuvres, le musée en a acheté une seule. Les autres, Pierre Alechinski les a offertes au musée.
Non. Est-ce qu'il n'avait pas eu un atelier dans le coin, là, lui, Alechinski, me semble, dans la région, non ?
Tout à fait. Il a un atelier dans les Alpilles.
Ah, c'est ça.
C'est pour ça qu'effectivement, il y a eu ce lien privilégié. Et puis, il faut savoir que dans les œuvres très célèbres de Pierre Alechinski, qui sont ces fameuses plaques d'égout qu'il a relevées dans le monde entier, la première plaque d'égout qu'il a faite, elle a été faite à Arles. Et elle est dans les collections.
D'accord. Alors, on parlait avec Gavis Clemente Ruiz là, de ce qu'on appelle un dialogue entre les œuvres anciennes, les plus modernes et les contemporaines. On peut expliquer ça, le dialogue?
Eh bien, effectivement, en fait, le musée, en fait, on dit musée, mais en fait, dès l'origine, c'est une maison d'artistes, donc on accueille les artistes.
Oui.
Et effectivement, lorsqu'on regarde la peinture très académique de Jacques Réattu, on voit des études d'anatomie, des études de nu. Quelque part, on trouve très facilement des liens avec la photographie contemporaine.
Oui, d'accord.
Photographes qui utilisent la photographie comme Réattu aurait utilisé s'il avait été photographe à l'époque. Donc, on a des études de nu qui sont très, très proches. Des regards d'artistes, justement, qui se rejoignent à travers des médiums extrêmement différents.
Alors, c'est, paraît-il, le premier musée des Beaux-Arts à avoir créé son département photographique et exposé de la photo. C'est bien ça, avec un nom célèbre, bon, je dirais peut-être en matière de nu, peut-être le plus doué, hein, vous voyez qui je veux dire?
Oui, tout à fait, je vous parlais de Lucien Clerc, le photographe arlésien.
Lucien Clerc, formidable créateur, et il a créé même un festival, hein, les rencontres.
Alors, effectivement, mais alors, en fait, l'histoire d'Arles aujourd'hui, pour tout le monde, Arles est la ville de la photographie, mais tout ça, c'est parti du musée Réattu, avec la création de cette première collection photographique artistique dans un musée des Beaux-Arts en France, sur le modèle des musées américains. Aux États-Unis, ça se faisait déjà. Oui. Au moment de New York, il y avait, pour aller voir Guernica à l'époque, lorsque Guernica était à New York, pour aller voir Guernica, il fallait traverser les salles de photographie. Et Lucien Clerc a vu ça. Et à l'époque où les photographes en France n'étaient pas reconnus comme des artistes, l'idée, ça a été de dire on va créer une collection. Et il est allé voir son ami le conservateur Jean-Maurice Rouquette. Et en 1965, ils ont créé la collection. Et 5 ans après, toujours dans cet esprit militant de faire reconnaître la photographie comme un art et les photographes comme des artistes, a été créé le Festival des Rencontres. Et la suite, ça a été l'installation en 82 à Arles de l'École nationale supérieure de la photographie.
Mais oui, ça n'est pas rien. L'histoire ne se termine pas là d'ailleurs, mais elle a bien été poursuivie grâce à cette école. Et je pense à Lucien Clerc, mais je pense à tous les autres. Hein, oui. Willy Ronis, qu'est-ce qu'il y a, Douaneau, évidemment, Brassailles, enfin tous les plus grands. Quoi. Est-ce qu'il y a des expositions permanentes et des temporaires?
Alors, tout à fait. Alors, avec une originalité du musée, qui est le musée étant dans un bâtiment classé monument historique, le musée ne dispose pas de salle d'exposition temporaire. Et donc, tous les projets d'expo temporaire sont conçus en lien avec les collections permanentes. Mmh. Donc, bon. C'est-à-dire qu'en fait, le visiteur parcourt 26 salles en tout, 2600 m², ce n'est pas rien. Et en fait, passe de l'œuvre de Jacques Créatu et finit par traverser les salles d'exposition temporaires, mais en ayant un parcours toujours intégré et complet.
Et en plus, vous avez de la chance, parce que le bâtiment, il est presque aussi beau à regarder que ce qu'il contient, parce qu'il y a une magnifique cour intérieure, là j'ai les photos, c'est sublime hein, aussi. Donc je dis ça à ceux qui nous écoutent, si vous faites le voyage, vous ne serez pas déçus par la ville, bien sûr, les fondations variées et nouvelles, mais ce musée des Beaux-Arts-là, en tout cas, voilà, c'est à Arles, et il y a aussi un musée des Beaux-Arts. Merci à vous, Daniel Rouvier. Merci pour la visite. Au revoir. Gavin, est-ce qu'on peut rester une nuit dans cette ville magnifique? Il y a de quoi faire. Hein,
bah, carrément. Et puis, vous allez aller au plus proche, à l'hôtel du musée. C'est juste en face du musée Réattu. Vous serez aux premières loges dans cette belle maison du XVIIe siècle. Il y a un parquet, il y a la climatisation, ça c'est le confort moderne. Il y a aussi un petit patio, il y a plusieurs petits patios pour le petit déjeuner. À partir de 90 €, ou alors vous avez la maison Volver. Là, c'est une autre ambiance, un immeuble des années 50 avec une déco très joyeuse, très pimpante, un peu vintage. Là, c'est 74 € par nuit.
C'est pas trop cher. Vous aurez tous les détails sur les réseaux sociaux et sur europe1.fr. Dans un instant. Alors, c'est un site que l'on a mis dans une catégorie. C'est la catégorie des savoir-faire qui ont fait la renommée d'une région ou d'une ville. Direction Rochefort, en Charente-Maritime, où, en dehors des demoiselles célèbres, il y a là-bas la magnifique corderie royale qui se visite. On suivra le guide. Et juste après, vous entendrez André Dussolier, immense comédien qui sera au micro de Daniel Moreau pour évoquer la France de son enfance. A tout de suite.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Dans un instant, nous allons retrouver André Dussolier au micro de Daniel Moreau. Mais juste avant, comme vous le savez peut-être maintenant, dans Samedi en France, sur Europe 1, nous explorons le pays à travers ses sites les plus insolites, en tout cas les moins visités. Mais là, c'est autre chose. C'est un site où on a manifesté un savoir-faire il y a très longtemps. Oui, mais le savoir-faire, il a traversé le temps. C'est justement à cela que nous allons nous intéresser maintenant avec l'infatigable du guide du routard, Gavis Clémenté Ruiz. Direction, Gavis, à quel endroit donc?
Alors, on va en Charente-Maritime à Rochefort, en Nouvelle-Aquitaine, c'est pile entre La Rochelle et Royan. Je vous présente la corderie royale de Rochefort.
Alors, il faut juste rappeler que Rochefort, c'est un port où il y a quelques siècles, on embarquait pour des destinations lointaines. Pour certaines, ce n'était pas avouable. C'était l'Afrique avec le commerce triangulaire, mais c'était l'Amérique aussi. Et il y a un certain Lafayette, d'ailleurs, si je me souviens bien, qui est parti de là pour rejoindre l'Amérique. C'était au 18e, non?
Exactement, oui, c'est ça. Mais avant cela, Louis XIV, Colbert aussi, un siècle plus tôt, avait établi une sorte de chantier naval à Rochefort pour construire des navires qui étaient susceptibles, en fait, de lutter contre la Royal Navy, la redoutable Royal Navy, la marine anglaise.
C'était les rois de la mer pour l'époque.
Exactement. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir la pièce maîtresse de cet arsenal, c'est la corderie royale. Alors, pour répondre aux souhaits du roi, on ne lésine pas. C'est-à-dire... Le sol est marécageux, qu'à cela ne tienne, on la sèche, on l'assainit, on pose dessus de solides fondations pour accueillir un gigantesque bâtiment en forme de navire de plus de 300 mètres de long. C'est tout simplement, à l'époque, le plus grand bâtiment d'Europe.
Petite référence cinématographique, comme on essaie de faire à chaque fois. Dans Ridicule, le film, on assèche comme ça des marécages, et c'était au temps de Louis XIV. Alors pourquoi une telle dimension, là, d'ailleurs, ce bâtiment ?
Eh ben pour tout simplement fabriquer et stocker des cordages de presque 200 mètres de long, imaginez. Donc il fallait quand même de la place.
Oui, mais quand on regarde les images de la corderie, franchement, ça ressemble plus à un palais qu'à un hangar à bateau. Hein,
non ? C'est beau, hein ? Je trouve ça vraiment très beau. Il y a la toiture bicolore, il y a le fronton qui est orné. C'était quelque part une manière très spectaculaire, oui, de témoigner de la puissance royale et de l'importance qui était accordée au lieu.
Oui, c'était une manière aussi d'épater tout le monde.
Exactement,
en disant,
c'est ça.
Nous, nos bateaux et notre corderie, on ne fait pas mieux en Europe.
Et regardez comme c'est beau, le lieu où on les fabrique est magnifique.
Oui, d'accord. Alors, le temps des frégates a disparu, ça vous êtes au courant. L'arsenal a fermé, mais il accueille aujourd'hui un centre international de la mer. Nous avons Arnaud Dautricourt, qui est le responsable de la production culturelle de la corderie royale de Rochefort. Bonjour Arnaud.
Bonjour William.
Alors, dans cette corderie, on peut suivre toutes les étapes de la fabrication d'un cordage, tel qu'on le faisait à l'époque ?
Alors oui, tout à fait. Dans le cadre de l'exposition permanente, on a revisité la manufacture de cordage. Donc on a toutes les étapes sous forme d'atelier. Mm-hmm. Donc on a le peignage, donc qui permet de séparer les fils de chanvre, les petites fils de chanvre qui viennent de un peu partout en France. Oui. En plus, on a le filage, donc on va faire le premier élément qu'on va appeler le fil de carré. On va mettre ensuite ces fils de carré ensemble pour faire des torons, et on va rentrer donc dans le commettage pour faire ces cordages de toute taille.
Extrêmement technique. Mais ça, on le fait devant nous, devant le visiteur ?
Chaque atelier a son maître d'atelier. Alors, il a des apparences très différentes, oui, mais le visiteur peut aussi participer à la réalisation d'un cordage.
Ah, d'accord. J'ai l'impression que les cordages, dans une corderie royale, s'il vous plaît, c'est d'un bateau en plus de grande taille, c'était presque aussi important que la coque ou les voiles. Enfin, c'est une impression que j'ai.
Alors, le cordage est une partie... est partie prenante de la construction navale. Ça sert à tenir le gréement des navires, donc la ouais, mâture, mmh, et des vaisseaux. Ça sert aussi donc à arrimer les canons, quand ouais, ce sont des bateaux de guerre,
Dieu
et à manœuvrer les voiles.
Oui, ils bougent, parce qu'une fois qu'ils ont tiré leur boulet, ils reculent.
Mais voilà, les amarres permettent de maintenir le fût pour ne pas qu'il traverse tout le bateau. Voilà. Et donc, il faut 37 km de cordage pour armer une frégate comme la frégate Hermione actuellement.
37 km. Et il faut les entretenir, parce que c'est costaud, hein, le diamètre d'un cordage comme ça. C'est quoi, 15 cm, quelque chose comme ça, non ?
Alors, on a tous les diamètres. Hein, va du centimètre jusqu'à une vingtaine de centimètres. Le plus gros câble à bord, c'est le câble d'ancre. C'est celui qui retient la plus grosse puissance, hein, puisqu'il doit tenir le bateau qui fait plusieurs tonnes lorsqu'il est à la mare et lorsque le bateau a jeté l'ancre.
D'accord. Est-ce qu'il y a aussi dans la corderie royale des expositions qui ont un rapport avec la mer ?
Bien sûr, la mer est partout dans notre arsenal, mais le Centre international de la mer a une vocation aussi, c'est de faire découvrir l'univers maritime. Et aujourd'hui, on propose aux visiteurs, à travers la vision d'artistes plasticiens, oui, de se sensibiliser aux problèmes maritimes. Mmh. Donc là, aujourd'hui, on a une artiste qui a travaillé sur les mythes avec les sirènes, avec tout ce qui est monstres marins qui peuvent accompagner. Et puis, l'année prochaine, nous serons avec une artiste céramiste qui va nous emmener donc dans un univers subaquatique.
D'accord. Vous dites aussi que c'est un lieu de vie. Ça veut dire qu'on peut y manger, qu'on peut acheter des livres, etc.
Alors oui, sur le site donc de l'Arsenal des Mers, on va retrouver donc notre librairie maritime qui a pour thème la mer, le voyage et l'aventure. Et puis, on a aussi, pour l'accueil notamment des groupes, une restauration de qualité qui s'appelle le restaurant des longitudes.
Ah oui, il ne peut pas s'appeler autrement, bien sûr. Merci beaucoup Arnaud Dautricourt. Je rappelle que vous êtes le responsable de la production culturelle de la corderie royale de Rochefort. Merci infiniment, bonne journée. Au revoir.
Merci à vous.
Alors, Gavins, C'est ouvert tous les jours ?
Oui, en ce moment, jusqu'au 1er novembre. C'est ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. Et du 2 novembre au 17 décembre, c'est ouvert uniquement de 14h à 18h et fermé en janvier. Il faut compter 10€ pour les adultes, 6€ pour les 6-15 ans et c'est gratuit.
On peut déjeuner sur place ou dîner ou déjeuner plutôt. C'est une adresse pour dormir aussi, vous avez ça ?
Oui, j'ai trouvé l'hôtel Lafayette. C'était la moindre des choses. C'est toujours à Rochefort, c'est tout confort. Il y a un super accueil. Il y a des chambres doubles à partir de 65€ pour une nuit. Bref, c'est parfait pour un petit week-end maritime.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, bien sûr, tous ceux que vous fréquentez habituellement, vous aurez les images et les explications, et puis sur europe1.fr, évidemment. Comme nous le faisons chaque samedi sur Europe 1, nous réservons une place aux souvenirs de personnalités que vous connaissez bien et qui vous parlent de leur amour pour une région, une ville, un lieu. Alors cette fois-ci, dans la France de mon enfance, cette séquence s'appelle comme ça. Daniel Moreau nous emmène en Savoie sur les traces du petit André Dussolier. C'est un garçon à l'époque très timide, il l'est encore un peu aujourd'hui, solitaire, fils unique, dont le papa était percepteur dans le petit village de Cruseille. C'est près d'Annecy.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour André Dussolier.
Bonjour Daniel.
J'ai envie que vous me racontiez ce que voyait le petit André de la perception de Cruseille, donc on est près d'Annecy.
On est à 20 km d'Annecy, 20 km de la frontière suisse aussi, donc je voyais, c'était un petit village, Cruseille, de 1000 habitants, maintenant il a un peu grandi ce village, mais de ma fenêtre je voyais, je restais souvent derrière ma fenêtre à voir le clocher, le village, etc. et aussi beaucoup la nature qui n'était pas loin, qui était très proche du village, c'était agréable de la voir et j'avais envie vraiment de m'évader, de faire l'école buissonnière. Mais non, il fallait quand j'aille à l'école, donc sagement, et je me rends compte aujourd'hui que c'était un endroit rêvé. Peut-être à l'époque, je ne le vivais pas de la même façon, mais c'était la nature, on était au milieu de la nature, et c'était, j'avais envie de profiter de chaque moment, de chaque saison, de chaque... Et j'y retourne souvent, pas forcément à Cruseille, mais à Annecy, qui est ma ville natale, et où Annecy est une ville merveilleuse, où il y a à la fois le lac, les montagnes, et donc j'y vais voir les changements de la nature à toutes les saisons.
Alors, imaginons que vous m'emmeniez en week-end, on peut toujours rêver, à Annecy, ouais. Qu'est-ce qu'il faut voir vraiment en priorité dans la ville d'Annecy, parce que c'est une ville magnifique.
La ville d'Annecy, le vieil Annecy évidemment, c'est... même si vous allez tout en haut dans le château d'Annecy, à ce moment-là vous voyez dans les corps de bâtiments les moments différents suite à des incendies et où il y a eu des constructions. Alors il y a le corps principal, puis après il y a un autre, donc on voit les époques à travers les pierres et la couleur des pierres qui raconte un petit peu les différentes époques où ce château a été construit ou reconstruit. Et puis il y a toutes les vieilles prisons au cœur du canal du Thiou. C'est tellement beau le vieil Annecy, c'est vraiment presque une ville proche de l'Italie, ça y fait penser beaucoup avec ses maisons et ses surfaces peintes aussi comme les maisons italiennes. On a gardé telles quelles les maisons telles qu'elles étaient construites avec les cours intérieurs pavés où on pourrait, c'est à chaque fois des lieux de théâtre. Hein, on pourrait vraiment. Il y a la Visitation tout en haut qui est aussi là aussi, c'est un lieu de théâtre. On y jouait des grandes tragédies, des pièces classiques, etc. Une fois que vous avez fait le cœur de la ville et aussi toutes les églises, parce que les églises d'Annecy, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les communautés. Il y a l'église des Italiens, il y a toutes les églises de chaque quartier. Donc moi j'adore m'y perdre, j'adore y rentrer, j'adore être là, goûter le silence de chaque église. Le vieil Annecy, c'est à la fois pas très grand et à la fois il y a tellement de choses à visiter qu'on a l'impression qu'on passe de monde en monde. Et puis après Annecy, vous allez, alors là, vous pouvez soit en pédalo, soit avec un bateau, soit, ce qui est encore mieux, avec le vélo, vous pouvez emprunter la piste cyclable qui fait le tour du lac d'Annecy, ça fait à peu près 40 km, et c'est qui emprunte la voie qui était réservée avant, pas au petit train, au train qui passait et qui est devenu maintenant une piste cyclable, et là qui vous permet de passer de village en village, de Sévrier à Douin, Saint-Joriot, Douin, et puis le bout du lac, et puis ensuite vous revenez de l'autre côté, et là vous allez de merveille en merveille, en passant par Talloire, la montée de Talloire, Verrier, enfin bon, tous ces villages. Bon, si vraiment il y a trop de monde pendant les vacances d'été, vous pouvez monter. prendre avec le vélo ou un scooter ou ce que vous voulez et aller à la Clusaz ou à la Croix-Friche. On peut se perdre vraiment, c'est ce que je préfère faire, parce que tous les chemins mènent à Annecy, mais au bout du compte, comme ils mènent à Rome, mais on peut se perdre et puis et on voit toujours des coins de nature magnifiques.
Merci beaucoup André Dussulier de nous avoir fait voyager de toutes les manières.
Merci beaucoup.
Vous voyez, ces personnalités à chaque fois dans cette émission sont de véritables ambassadeurs. Allez, il faut rappeler qu'André Dussulier est actuellement à l'affiche du film de François Ozon qui s'appelle « Tout s'est bien passé » aux côtés de Sophie Marceau. Alors, André incarne un homme qui est victime d'un AVC et qui ne supporte pas d'être diminué. Et donc, il demande à sa fille, Sophie Marceau, de l'aider à mourir dans la dignité, si c'est possible. Alors, c'est un rôle époustouflant pour lui. Et puis Sophie Marceau est extrêmement convaincante. Voilà. Merci aussi à Daniel Moreau. Nous retrouverons la semaine prochaine une autre destination de la France de mon enfance. Dans un instant, on ouvre les fenêtres, comme chaque samedi, pour terminer l'émission. Alors, c'est un site de plein air. Alors, vous allez découvrir l'un des plus beaux jardins de France. J'exagère pas, hein, c'est pas moi qui dis ça. C'est le siège d'un festival international connu de tous les amateurs et de tous les professionnels dans le monde entier.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Dans Samedi en France, chaque semaine sur Europe 1, nous vous donnons des idées pour parcourir le pays à travers des sites insolites, ou des sites du patrimoine, ou des sites du savoir-faire français, ou bien encore des sites de plein air. Et le prochain répond à cette dernière catégorie. Gavins Clemente Ruiz, pardon, chasseur de sites pour nous, va vous dire où nous allons maintenant. C'est quelle direction ?
Direction Chaumont-sur-Loire, William. C'est dans la région Centre-Val-de-Loire. C'est à 15 km d'Amboise et à 16 km de Blois. Ça sent le château tout ça, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit plutôt d'un des plus beaux jardins de France.
Oui, parce que Château de Blois, on connaît en tout cas de nom. Mais le jardin, je suppose qu'il n'est pas tout petit. Ça se trouve dans le village ou c'est dans le domaine du château ?
C'est dans le domaine du château. C'est un château magnifique d'ailleurs qui a été construit vers l'an 1000 et qui a appartenu tour à tour à Catherine de Médicis et à sa rivale, Diane de Poitiers.
Mais les jardins de Chaumont-sur-Loire, c'est connu pour plusieurs raisons, paraît-il. Lesquelles ?
Oui, au moins deux déjà. D'abord, c'est un immense jardin où chaque année se déroule une immense manifestation à la hauteur du jardin, très, très, très reconnue de par le monde, qui réunit des dizaines de paysagistes, d'artistes. Et puis, c'est aussi le siège d'un centre unique d'art et de nature. J'aime bien ça.
Qu'est-ce que c'est que ça, le centre d'art et de nature ?
Eh ben, c'est un centre qui cherche à relier la création artistique avec la nature, à partir de la nature.
Et la liaison, ça fonctionne ou pas ?
Carrément. On est au cœur de la nature et on voit l'œuvre d'art qui s'inscrit dans cette nature. Pour s'en rendre compte, il suffit de se promener dans le parc du domaine. Alors là, vous avez plein de créations artistiques qui ont été créées, réalisées par des paysagistes à partir d'éléments. Alors,
ça reste végétal.
Exactement.
Hein. Attention.
Il y a des ajouts en bois, il y a des ajouts...
On a le droit d'utiliser du bois, du métal, du verre, etc. Mais...
ça reste au cœur de la nature. Il faut que ce soit la nature qui soit mise en avant et qu'elle soit transformée par l'art. C'est ça qui est vraiment beau.
Avec la nature.
Avec la nature, avec des feuilles, avec des fleurs, avec des arbres et plein d'autres éléments qui complète la création.
Alors, Chaumont-sur-Loire, vous m'avez dit aussi, c'est connu pour une manifestation unique. Celle-là, elle est gigantesque, elle est connue dans le monde entier, tous les pros connaissent ça. Hein.
C'est ça. Depuis 1992, chaque année, se tient à Chaumont-sur-Loire le Festival International des Jardins. Alors là encore, c'est une grande réussite. Plus de 30 artistes et paysagistes s'emparent des lieux véritablement et réalisent en fait, des jardins sur un thème précis. Et c'est maintenant, alors que la floraison est la plus riche, que vous devez y aller avant le 7 novembre pour apprécier les œuvres qui ont été réalisées par les artistes sur le thème cette année du biomimétisme.
Bon, on va expliquer évidemment de quoi il s'agit, le biomimétisme. Mais quand vous êtes un paysagiste, français ou étranger, que vous êtes sélectionné pour participer, c'est la classe.
C'est la reconnaissance.
Vous pouvez mettre ça sur votre carte de visite.
C'est assuré.
C'est assuré d'être reconnu au moins par la profession. Alors, biomimétisme, on va se faire préciser. Je ne sais pas, c'est l'imitation de la nature. On va bien voir. On va voir avec qui. Eh bien, nous avons en ligne Chantal Colleux-Dumont, directrice du domaine de Chaumont, pour nous parler justement de cette nouvelle édition du Festival international des jardins. Donc, ça consiste en quoi concrètement ? Bonjour Chantal.
Bonjour William. Et ce thème du biomimétisme, c'est la mise en évidence du fait que la nature doit être une source d'inspiration plutôt qu'une ressource qu'on exploite.
Ah, d'accord.
D'accord.
Et il y a donc une trentaine de jardins qui mettent en évidence, par exemple, le fait que on peut avoir de l'air conditionné naturel. On a un jardin thermitière.
C'est quoi ça?
Pourquoi thermitière? Parce qu'on s'est aperçu, des architectes se sont aperçus qu'il faisait très frais dans les thermitières.
Oui,
parce qu'il y a des colonnes d'air frais qui viennent du sol et qui rafraîchissent la maison. Donc il y a des maisons, des architectures qui sont construites sur le modèle des thermitières. Mais est-ce que vous savez aussi que les fourmilières ont inspiré le GPS? C'est ça, le biomimétisme.
Ben la fourmi, apparemment, on a l'impression qu'elle sait toujours où elle va. Ce n'est pas toujours notre cas. Nous, on a besoin des GPS. Donc, je suppose que la fourmi, elle a des petites antennes, je ne sais pas.
Absolument. Donc, c'est la raison pour laquelle ce thème du biomimétisme a été choisi pour mettre en évidence les miracles qu'il y a dans la nature, qui est une très, très grande bibliothèque. Alors, on a par exemple ce qu'on appelle l'hydrophobie, les fleurs de lotus sur lesquelles l'eau glisse et qui nous ont permis d'inventer des matériaux étanches. On a aussi un jardin zèbre qui met en évidence la thermorégulation, la régulation de la chaleur.
Vous dites qu'il y en a 30, excusez-moi
oui,
Chantal, mais 30, c'est grand comment un jardin, par exemple celui des termites là, quelle est sa surface?
250 mètres carrés, on a 30 jardins qui font chacun 250 mètres carrés.
Oh là, c'est immense.
C'est assez grand, oui, ce sont des jardins qui ont plus duré 6 mois. Et qui sont réalisés par des paysagistes, mais à côté, il y a des artistes, des designers, des gens qui viennent du monde du théâtre et du cinéma. C'est vraiment un monde très particulier.
D'accord. L'automne, c'est bien comme saison là, pour la floraison?
C'est extraordinaire. En fait, aussi bien pour les jardins du festival dont on vient de parler que pour l'ensemble du parc qui fait 32 hectares, c'est sans doute le meilleur moment parce que les végétaux sont très généreux, c'est la période la plus luxuriante, c'est le moment où on a des astères aux tons pastel, rose, mauve, blanc, violet. Il y a aussi des dahlias, on a des dahlias absolument extraordinaires. Et puis bientôt, on aura des chrysanthèmes qui sont des plantes très belles au milieu du mois d'octobre. Donc c'est vraiment le moment où il faut venir.
Il faut les entretenir, je suppose que vous avez une armée de jardiniers pour ça, non?
On a 12 jardiniers permanents et l'été, ils sont 20, ce qui fait que nous avons des jardiniers très engagés, tout à fait passionnés et qui travaillent énormément au service de ce beau parc.
Alors, c'est un festival. Qui dit festival dit récompense. Qui dit récompense dit jury. C'est bien ça. Et quand on est récompensé, là encore, je disais, c'est la gloire peut-être assurée.
Oui, on a au mois de juin des prix qui sont décernés. Et donc, on a un prix de la création. Puis on a un prix du design et des idées novatrices qui a d'ailleurs récompensé le jardin zèbre dont je vous parlais à l'instant. On a aussi le prix de la palette et de l'harmonie végétale qui a récompensé un jardin qui s'appelle le Petit Pays des Larmes, qui est un jardin qui avait été fait par des concepteurs néerlandais où on voit l'eau qui glisse le long de fils comme l'eau glisse sur les toiles d'araignée. Et puis on a le prix du jardin transposable qui est intéressant pour le public parce que c'est le jardin qu'on peut refaire chez soi. Et c'est une jeune femme qui s'appelle Élodie Stéphane qui a eu pour son jardin Territoire de Bocage ce prix. L'idée, c'était de récupérer l'eau et d'avoir un mobilier urbain et qu'on peut avoir dans son jardin qui récupère l'eau tout en étant un banc, un jardin.
Alors, pour visiter pendant le festival le jardin, ça prend à peu près combien de temps? On prend son temps, on regarde ça sous toutes les coutures. Il faut combien de temps, à votre avis?
Alors, il faut, pour venir à Chaumont, il faut la journée.
Oui.
Parce qu'il y a les jardins du festival, mais beaucoup d'autres jardins.
D'accord.
À côté. Il y a les œuvres d'art qu'évoquait tout à l'heure votre collègue.
Oui, oui.
Il y a vraiment, il faut, on a même un billet de jour. Mais bon, à l'automne, on peut dire que
oui.
Plusieurs heures.
D'accord, mais la journée, c'est bien, puis on déjeune sur place. Ça vous va?
Exactement.
Ça?
C'est parfait.
Bon, très bien, merci beaucoup Chantal Collet-Dumont pour toutes ces précisions à propos du Festival international des jardins qui se tient dans la région Centre-Val-de-Loire. C'est à Chaumont-sur-Loire. Bonne journée, merci beaucoup. Alors, merci, au revoir. Gavin, c'est un conseil si on veut manger sur place, puisque je vous ai offert de déjeuner là-bas.
Alors, on va aller manger, William, à l'Herbe Rouge. C'est à Valère, à 6 km à l'est de Chaumont. Alors, il y a une petite formule déjeuner à 14,50 en semaine. C'est dans l'ancien
c'est
café du village.
À 14,52, service compris. Oh, formidable.
Eh ben, c'est pas mal. Hein
ouais, ouais.
Dans l'ancien café du village, qui a été transformé en resto et bar à vin. Surtout bar à vin, c'est sympa en fin de journée après la visite du jardin. Il y a une belle tonnelle quand il fait beau. Il y a un petit ruisseau juste à côté. Et puis, bah, si on veut prolonger le plaisir, il y a aussi des gîtes à l'Herbe Rouge de Valère si on veut rester pour la nuit.
Alors, pour en savoir encore plus et avoir les images qui correspondent, vous avez vos réseaux sociaux favoris ou alors europe1.fr. On termine avec un récapitulatif. Si vous êtes venu au cours de l'émission, un récapitulatif de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Alors, allons-y.
Eh bien, on a visité le bassin des Lumières à Bordeaux dans les anciens arsenaux des sous-marins allemands pendant la guerre. On a visité le musée Jacques Réattu à Arles, un lieu de dialogue entre les œuvres d'artistes très différents. On a aussi fait la visite de la Corderie Royale de Rochefort, un lieu de savoir-faire unique en France. Mmh. Et enfin, on s'est arrêté dans l'un des plus beaux jardins de France à Chaumont-sur-Loire.
Pour terminer, on essaie de trouver un spectacle ou un livre qui vous permet de visiter une des régions de France. Là, il s'agit du nouveau roman d'un auteur connu, c'est Jean-Christophe Ruffin.
Oui, l'académicien qui a eu le prix Goncourt. Jean-Christophe Ruffin qui publie Les Flammes de Pierre, c'est son nouveau roman chez Gallimard. Alors, c'est une histoire d'amour qui se passe en montagne, en Savoie, à Chamonix.
La nature,
on sait qu'il marche
ça.
Beaucoup, on sait qu'il aime la montagne.
Oui.
C'est une de ses passions. Il en parle avec sensualité presque. Hein. Et la montagne, bah, c'est le troisième personnage de ce couple que forment Rémi et Laure. On se balade entre refuges, on fait des randonnées, on est dans les escalades, on est dans les marches, dans la neige.
Bah oui.
Et c'est un roman qui donne vraiment envie de bouger, comme nous essayons de le faire chaque samedi à 15h sur Europe 1.
L'émission est maintenant terminée. Merci à Marie Jacquet, à Christophe Pierrot, à Daniel Moreau et Gavin Clément-Terruis. Donc, dans un instant, place à Stéphane Bern et son copain Mathieu Noël. Et ça s'appelle Historiquement Vôtre. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain, notez bien, 15h, pour partir à la découverte de 4 nouveaux sites. Bon après-midi sur Europe 1.